Noël. Nouvelle d'Anton Tchekhov. Que faut-il lui dire ? Demanda Yegor en trempant sa plume dans l'encrier. La Vassilissa n'avait pas vu sa fille Yefimia depuis 4 ans. Après son mariage, celle-ci était partie à Pétersbourg avec son mari, avait écrit 2 fois, puis cela avait été le silence des grands lacs. Elle n'avait plus donné signe de vie. Et que la vieille femme fût en train de traire sa vache à l'aube, d'allumer le poêle ou, la nuit, de somnoler, elle ne pensait qu'à une seule chose. Que faisait Yefimia ? Là-bas. Était-elle en vie ? Il aurait fallu lui envoyer une lettre, mais son vieux ne savait pas écrire et elle n'avait personne à qui le demander. Puis, Noël était venu. Et la Vassilissa, n'y tenant plus, s'était rendue chez Yegor, l'aubergiste, le frère de sa propriétaire, qui, depuis son retour du service, restait sans sortir de son auberge, à ne rien faire. On disait qu'il était capable de tourner convenablement une lettre, à condition de le payer ce qu'il fallait. La Vassilissa en avait parlé à la cuisinière, puis à sa propriétaire, puis à Yegor lui-même. Ils étaient tombés d'accord sur 15 kopecks. Et maintenant, cela se passait le 2e jour des fêtes de Noël, Yegor était assis à la table, dans la cuisine de l'auberge, une plume à la main. La Vassilissa se tenait devant lui, songeuse, l'air soucieux et affligé. Elle était accompagnée de Piotr, son vieux mari, un homme très maigre, grand, chauve, le crâne tout bronzé. Il avait le regard fixe et droit comme un aveugle. Un rôti de porc à la casserole cuisait sur la plaque. Il grésillait, pétillait et semblait même dire « Fliou, fliou, fliou !» L'atmosphère était étouffante. « Que faut-il lui écrire ?» redemanda Yegor. « Bah quoi ?» dit la Vassilissa en lui lançant un regard irrité et soupçonneux. « Me bouscule pas, t'écris pas pour rien, on te paye. Alors, écris à notre cher gendre Andrei Krisanfitch et à notre fille unique chérie Yefimia, nous envoyons avec amour notre profond salut et notre bénédiction paternelle et maternelle, éternelle et irrévocable. » Ça y est, la suite, feu à volonté. Ajoute... « Nous leur souhaitons de bonnes fêtes de Noël, nous sommes en vie et en bonne santé, et nous demandons au Seigneur, roi des cieux, que ça soit pareil pour vous. » La Vassilissa réfléchit et échangea un regard avec son vieux. « Et nous demandons au Seigneur, roi des cieux, que ce soit pareil pour vous ?» répéta-t-elle en fondant en larmes. Elle ne put ajouter un mot. La nuit, quand elle y réfléchissait, il lui avait semblé qu'elle n'arriverait pas à tout dire, même en 10 lettres. Depuis que leur fille et son mari étaient partis, beaucoup d'eau avait coulé dans la mer. Les vieux vivaient comme des orphelins et ils poussaient, chaque nuit, des soupirs lourds de peine comme s'ils avaient enterré leur fille. Et il s'en était passé des événements au village pendant ce temps. Que de mariages, que de morts. Que les hivers avaient été longs, que les nuits étaient longues. « Il fait chaud !» dit Yegor en déboutonnant son gilet. « Il doit faire 70 degrés ici. Et j'ajoute quoi ? » demanda-t-il. Les vieux se taisaient. « Qu'est-ce qu'il fait, ton gendre ? » demanda Yegor. « C'est un ancien soldat, mon gars. Tu le sais bien, » répondit le vieux. D'une voix faible. Il est revenu du service en même temps que toi. Il a fait son temps et maintenant il est à Pétersbourg dans un établissement d'hydrothérapie. Le docteur guérit les malades avec de l'eau, alors comme ça, il les suit chez le docteur. C'est écrit là, dit la vieille en sortant une lettre de son fichu. On l'a reçu d'Yefimia il y a Dieu sait combien de temps. Peut-être qu'ils ne sont plus de ce monde. Yegor réfléchit un instant et se mit à écrire rapidement. « Actuellement, écrivait-il, vu votre destin s'est fixé de par lui-même sur la carrière des armes, nous vous conseillons de consulter le règlement des punitions et le code pénal du ministère de la guerre, et vous apercevrez dans le dit code la civilisation des fonctionnaires du ministère de la guerre. » Il écrivait en lisant tout haut ce qu'il avait couché sur le papier, cependant que la Vassilissa réfléchissait à ce qu'il faudrait dire. Quelle disette il y avait eu l'année dernière ? On n'avait pas eu de blé pour aller jusqu'à Noël. Il avait fallu vendre la vache. Il faudrait demander de l'argent, écrire que le vieux était souvent malade et rendrait peut-être bientôt son âme à Dieu. Mais comment exprimer cela ? Qu'est-ce qu'il fallait dire avant et qu'est-ce qu'il fallait dire après ? Prêtez attention, continuait à écrire Yegor, au tome 5 du règlement militaire. Soldat est un nom commun, illustre. On appelle soldat le général en chef et le dernier troupier. Le vieux remua les lèvres et dit à voix basse « Si on pouvait voir nos petits-enfants, ça serait bien. »« Quels petits-enfants ? » demanda la vieille en lui lançant un regard de colère. « Peut-être qu'il n'y en a pas. »« Des petits-enfants ? Peut-être qu'il y en a, qui sait ?»«
Et d'après ça, vous pouvez juger, » écrivait Yegor d'une plume hâtive, « qui est l'ennemi étranger et qui est l'ennemi intérieur, le premier de nos ennemis intérieurs est Bacchus. »
La plume grinçait, décrivait sur le papier des boucles pareilles à des hameçons. Yegor se hâtait et relisait chaque ligne à plusieurs reprises. Il était assis sur un tabouret, les jambes largement écartées sous la table, repu, la mine florissante, avec sa grosse gueule et sa nuque rouge. C'était la vulgarité même, brutale, arrogante, invincible, fière d'être née et d'avoir grandi dans une auberge. Et la Vassilissa sentait parfaitement cela, mais elle ne pouvait l'exprimer en paroles et se contentait de regarder Yegor d'un œil irrité et soupçonneux. La voix d'Yegor, les mots incompréhensibles qu'il disait, la chaleur, le manque d'air, lui avaient donné mal à la tête, troublé les idées. Et elle ne disait plus rien, ne pensait plus rien, attendant seulement qu'il eût fini de grincer avec sa plume. Le vieux regardait faire avec une confiance entière. Il avait confiance en la vieille qui l'avait amené là, et en Yegor. Et quand il avait parlé un instant plus tôt de l'établissement d'hydrothérapie, on voyait à son visage qu'il croyait et à cet établissement et à la vertu curative de l'eau. La lettre finie, Yegor se leva et la relut toute depuis le début. Le vieux ne comprenait pas, mais opinait du chef avec confiance.
« Ça va, ça ne fait pas un pli, » dit-il. « Dieu te donne la santé, ça va. »
Ils posèrent sur la table 3 pièces de 5 copecs et s'en allèrent. Le vieux avait le regard fixe et droit, comme un aveugle. Sur son visage, on lisait une entière confiance. La Vassilissa, elle, en sortant de l'auberge, montra le poing au chien et lui dit d'un ton furieux
« Ouh, choléra !»
Elle ne dormit pas de la nuit. Ses pensées la tenaient en souci. À l'aube, elle se leva, dit sa prière et alla porter sa lettre à la gare. De chez elle à la gare, il y avait 12 verstes. L'établissement hydrothérapique du docteur Moselweiser était ouvert le premier de l'an comme les autres jours. Simplement, le portier, Andrei Krizanfitch, avait des galons neufs à son uniforme, des bottes particulièrement brillantes, et accueillait tous les arrivants en leur souhaitant une bonne et heureuse année. C'était le matin. Andrei Krizanfitch, debout devant la porte, lisait le journal. À 10 heures précises, il vit arriver un général qu'il connaissait bien, un habitué, suivi du facteur. Le portier débarrassa le général de sa capote et dit « Bonne et heureuse année, votre excellence !»«
Merci, mon ami, je t'en souhaite autant !»
En montant l'escalier, le général désigna une porte du menton et demanda. Il le demandait à chaque fois et l'oubliait aussitôt.
« Qu'est-ce que c'est que cette pièce ?»«
La salle de massage, votre excellence. » Quand le pas du général se fut évanoui, Andreï Krisanfitch examina le courrier et trouva une lettre à son nom. Il la décacheta, lut quelques lignes, puis, sans se presser, tout en parcourant des yeux le journal, il se rendit dans sa chambre qui se trouvait au rez-de-chaussée même, au bout du couloir. Sa femme, Yefimia, assise sur son lit, donnait la tétée à son bébé. Un deuxième enfant, l'aîné, se tenait à côté d'elle, sa tête bouclée, posée sur les genoux de sa mère. Un troisième dormait dans le lit. En entrant, Andreï tendit la lettre à sa femme et dit « Ça doit venir du village. » Puis, sans quitter son journal des yeux, il sortit et s'arrêta dans le couloir, non loin de la porte de sa chambre. Il entendit Yefimia lire les premières lignes de la lettre, d'une voix tremblante. Elle ne put continuer. Il lui suffisait de ses premières lignes, elle fondit en larmes et, serrant son aîné dans ses bras, le couvrant de baisers, elle se mit à parler et l'on ne savait pas si elle pleurait ou si elle riait. « C'est de grand-mère, de grand-père, disait-elle, du village, reine des cieux, saint du paradis. En ce moment, là-bas, il y a de la neige jusqu'au toit, les arbres sont tout blancs. Les petits-enfants font de la luge et grand-père, qui est tout chauve, est sur le poil. Et il y a un toutou jaune. Oh, mes parents chéris !» En entendant cela, Andreï Krisanfitch se souvint qu'à 3 ou 4 reprises, sa femme lui avait donné des lettres et lui avait demandé de les mettre à la poste. Mais des affaires importantes l'en avaient empêché. Il ne les avait pas portées. Elles traînaient quelque part. « Et les lièvres courent dans la campagne ?» disait Yefimia, toute baignée de larmes, poursuivant sa litanie et embrassant son petit. « Grand-père est tranquille, bon. Grand-mère aussi, elle est bonne, compatissante. Au village, on vit bien, d'accord, on respecte le Seigneur. Il y a une petite église, des paysans qui chantent dans le cœur. Emmène-nous d'ici, reine des cieux, mère protectrice. » Andreï Krisanfitch rentra dans sa chambre pour y fumer une cigarette, en attendant l'arrivée du prochain client. Et Yefimia se tut aussitôt, se calma et essuya ses larmes. Seules ses lèvres tremblaient. Elle craignait beaucoup son mari. Ah, ce qu'elle le craignait, le bruit de ses pas. Son regard la faisait frémir, la remplissait d'épouvante. En sa présence, elle n'osait pas dire un mot. Il alluma une cigarette, mais juste à ce moment, on sonna. Il éteignit sa cigarette et, prenant une mine grave, courut à la grande porte. Le général descendit, le teint rose, rafraîchi par le bain. « Et dans cette chambre, qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il en montrant une porte. Andreï Krisanfitch rectifia la position, la main sur la couture du pantalon, et répondit d'une voix forte « La douche Charcot, Excellence !»